Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Jean-François Gosselin. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Chaque FM 105.1. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet Plus proche de vous. Un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va aujourd'hui Jean-François?
Bien, ça va très bien, merci. Et toi-même, Nathalie?
Eh bien, écoute, merci de demander, ça va super. Moi, je suis très contente qu'on se retrouve parce que tu es fait partie de la grande famille de Chaque FM, une grande famille qui fait partie de tous ces bénévoles, en fait, c'est ça. Tu nous donnes du plaisir tous les samedis avec ton émission Musicopop. On va pouvoir en reparler un petit peu peut-être pendant cette interview. Mais toi, tu es un grand fan de musique, un grand fan de cinéma. Donc du coup, qui mieux que toi pour être dans ce portrait de plus proche de vous, un portrait en musique. On a fait une petite sélection ensemble. Tu m'as dit des petits morceaux que tu aimais bien. Alors normalement, c'est 4-5 chansons. Toi, tu es tellement un amoureux de la musique, on a décidé de mettre une petite chanson bonus à la fin. On verra ça. On va pas dévoiler tout ça aux auditeurs de Chaque FM 105.1 tout de suite. Mais il y aura un petit bonus parce que Jean-François, il aime la musique. On va en pouvoir en reparler. Mais d'ailleurs, avant qu'on commence cette interview, est-ce que Jean-François, tu pourrais te présenter pour tous les auditeurs de Chaque FM 105.1 qui ne te connaissent pas encore?
Oui, merci beaucoup Nathalie de me poser la question. Alors, je suis né à Montréal, déménagé à Toronto et je suis, disons, amoureux des chansons, de la musique, francophone et anglophone, pour ne pas le cacher. Et je suis vraiment très grand amateur de cinéma. Et je suis animateur pour Choc FM depuis quelques années, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 ans. Et puis, je fais toujours jouer les chansons que les gens peuvent entendre, des fois pour la première fois, mais des grands succès de la chanson francophone. Puis, c'est des chansons des années 1970, des fois 60, jusqu'à aujourd'hui. Et anciennement, mon émission était rétro-pop et j'ai changé au mois de novembre pour musique au pop. Alors, je parle toujours de chansons, de chanteurs et de cinéma. Et en plus, je suis tellement amoureux de la chanson que je suis également un choriste pour la chorale Les Voix du Cœur. Pour la première année, eux, disons, Les Voix du Cœur, ça fait plus que 25 ans qu'ils existent. Et puis aussi, je suis le président de Toastmasters francophone ici même à Toronto, Toastmasters Le Cercle. Et puis, je suis vraiment très grand admirateur de la francophonie.
Et ben voilà, plein de choses. C'est vrai que tu fais plein de choses. Et puis en plus, t'as cet amour, hein, clairement, pour la musique francophone. C'est vrai que quand on parle avec toi, j'ai l'impression de parler à un véritable jukebox. C'est vrai que t'aimes beaucoup ça. Et puis justement, on va pouvoir revenir un petit peu en musique sur ton parcours. Mais avant qu'on rentre sur la première chanson de ta sélection, qui est une chanson de France Gall, d'ailleurs, on va pas tout dévoiler tout de suite, mais c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler d'un souvenir d'enfance que t'avais? Est-ce que justement, la musique, elle a toujours fait partie de ta vie ou c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard, où tu as déjà des souvenirs de toi un peu jeune et avec déjà plein de musique autour de toi, peut-être déjà un peu de chansons. Raconte-nous un peu ça.
Disons que j'ai toujours beaucoup aimé les chansons. Et puis, même quand j'étais un enfant, les gens me posaient des questions. « Peux-tu me dire qui chante cette chanson-là? » Ou « Peux-tu me dire le titre de cette chanson-là? » Et ça prenait même pas une seconde que j'avais toujours la réponse à la question qui
était posée. C'est pour ça que je dis que t'es un véritable jukebox, c'est ça?
Ah oui, j'étais vraiment un véritable jukebox. Et en plus, je me souviens de la chanson de France Gall parce que ça a été mon premier 45 tours. Le 45 tours était un disque vinyle, plus petit qu'un disque, un album. Et c'est une chanson côté A et souvent c'était sur le côté B. Et j'étais vraiment un grand admirateur pour France Gall parce que j'aimais beaucoup sa voix et ça a été mon premier 45 tours que j'ai acheté. Et disons que j'étais, mon premier emploi que j'ai fait, j'étais un livreur de journaux. Au Québec, c'était pour le journal La Presse. Et puis là, j'ai été au magasin, j'ai été m'acheter mon premier 45 tours et ce fut la chanson du côté B de la chanson de France Gall qui était sur le côté A, c'était Samba Mambo. Je me sens bien. Oui, c'est vraiment ça. Le titre, c'est « Samba Mambo ». Et le côté B, c'est toi, Nathalie, qui va le faire écouter aux
auditeurs, exactement. Et ben, on va la lancer tout de suite, cette chanson. Ça va peut-être rappeler des souvenirs à certaines personnes qui aussi ont peut-être acheté ce 45 tours. Alors, c'est bien que tu aies d'ailleurs expliqué un petit peu, parce que c'est vrai que pour beaucoup, maintenant, la musique, c'est un fichier MP3. Donc, ça veut dire que c'est même plus quelque chose de physique.
Les disques vinyles.
Voilà, c'est vrai qu'il y a encore ces CD physiques qu'on met dans des lecteurs, mais c'est vrai que les vinyles, les 45 tours, les 33 tours et tous ces trucs-là, c'est vrai que c'est un peu vintage, mais ça fait partie aussi de l'histoire de la musique. On est passé par ça avec les tourne-disques, on mettait le petit diamant comme ça, puis ça faisait lire le truc. Donc toi, c'était comme ça que tu lisais ta musique?
Oui, c'était effectivement de cette façon que j'écoutais avec un... comment on appelle un stéréo, tout simplement.
Ça s'appelait stéréo, OK. Moi, j'appelle ça un tourne-disque.
Mais oui,
ça
un tourne-disque,
c'est ça.
Ouais,
c'est ça, OK.
Non, tu as raison. C'est vraiment un tourne-disque. Et je mettais les disques vinyles sur le tourne-disque et j'écoutais. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'écouter le côté B, non pas seulement le côté A du disque vinyle. Et j'ai tellement aimé cette chanson que je pensais que j'étais France Gall et je la chantais.
J'adore. Alors, du coup, on va l'écouter tout de suite. Donc, c'est un morceau qui s'appelle...
Comment lui dire.
Exactement. Comment lui dire de France Gall, c'est tout de suite sur les ondes de choc.
Je le reconnais, c'est lui. Au beau milieu de la foule, de ces gens qui me sourient. Parmi tous mes ennemis, je le reconnais, c'est lui.
Justement, comment lui dire, comment elle est venue dans ta vie après cette chanson? Parce que donc, t'achètes ce disque, ce 45 tours, ce 45 tours avec la face A de Mambo. C'était quoi?
Le titre de la chanson était Samba Mambo.
Samba Mambo, et puis en fait, c'est la chanson du côté B que toi, t'as adoré. Et à partir de là, t'as quel âge à ce moment-là quand t'achètes ce disque?
En quelle année?
Ouais, en quelle année? Quel âge t'avais à peu près à ce moment-là?
Si je me trompe pas, je dirais 1976.
OK. Et du 1976. Coup, à ce moment-là, cette chanson, elle te plaît.
Oui.
Et à partir de là... Tu te dis, France Gall, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et tu commences à écouter tout ce qu'elle fait ou...
Oui, ben disons que j'ai beaucoup aimé la voix de France Gall. Puis j'ai su par la suite, bien sûr, qu'elle a déjà été la conjointe un peu de Claude François.
Exact.
Et puis, disons qu'ils ont fait après ça chacun leur vie, Claude François et France Gall. Et puis après, elle a épousé Michel Berger. Et Michel Berger et France Gall a été vraiment un bon exemple d'une histoire amoureuse. Vraiment, ça a été vraiment... puis pour moi, France Gall, pour revenir à elle, ça a été comme un genre de coup de foudre pour sa voix.
Un coup de foudre artistique.
Artistique et surtout par les chansons qu'elle a chantées, puisqu'elle a chanté de merveilleuses chansons. Puis une de celles que j'aime beaucoup également, c'est bien sûr Ella, Ella.
Ah ouais, une chanson que j'adore moi aussi. Alors du coup, on va enchaîner. Donc là, t'étais à Montréal, t'achètes ce super CD, enfin CD à l'ancienne, avec France Gall. Et puis toi, dans ta vie, après, t'en es où? Parce que nous, on se connaît parce que tu es arrivé à Toronto. À quel moment, justement, t'as le déclic de te dire « Oh, Montréal, c'est cool, mais peut-être que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Peut-être que j'ai envie de peaufiner mon anglais. » Parce que toi, à l'époque, tu parlais que français, t'habitais au Québec. Je pense que même si maintenant, c'est vrai que le Québec et les gens de Montréal ont tendance à être beaucoup plus bilingue qu'il l'était auparavant. C'est vrai que les générations d'avant, moi je pense que c'est plus les jeunes de 20, une vingtaine d'années maintenant qui sont clairement bilingues et qui utilisent autant le français que l'anglais à Montréal. Mais c'est vrai que les générations d'avant, les mamans, les papas, les papis, les mamies, eux ils ont plus tendance à parler le français et à le mettre en avant. Toi, à mon avis, à ce moment-là, tu parlais pas du tout l'anglais. Est-ce que c'est ça qui a motivé ton choix?
Donc, OK, pour revenir à ça, c'est que j'ai rencontré une personne et la personne habitait à Toronto et a déménagé à Montréal. Et de là, c'est que j'ai dit, pourquoi je ne prendrais pas une chance de faire le contraire et je suis une personne de Montréal et aller visiter Toronto, ce que Toronto peut m'offrir, et surtout côté emploi, côté vie, et je prendrai ma décision à ce moment-là. Et à l'âge que j'avais, c'est l'âge généralement qu'on doit prendre des décisions de qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie pour le futur.
T'avais quel âge à peu près alors?
J'avais dans la vingtaine.
Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un âge en général où on n'a pas encore une vie de famille établie ou un travail dans lequel on est depuis des années. C'est un petit peu difficile des fois de quitter. Donc là, tu n'étais pas encore rentré dans ta vie professionnelle réellement.
Non, pas
réellement. Tu avais envie de voir un peu ailleurs. Et puis, c'est vrai que Toronto, c'est un peu le petit New York, entre guillemets. Donc, ça donne envie. Il y a cette excitation aussi de grandes villes, de nouveaux challenges aussi.
Oui, essayer de faire quelque chose d'autre, de peut-être trouver un autre endroit où on peut construire une vie. Et si ça fonctionne malheureusement, pas. Montréal, Toronto, c'est quand même pas tellement loin.
Oui.
Ça se fait même très bien en voiture. Donc, c'est très facile pour moi. Si ça fonctionne pas à Toronto, je retourne tout simplement à Montréal. Et j'avais l'âge pour prendre ces décisions-là à ce moment-là.
Alors, la deuxième chanson que toi, t'as choisie, c'est une chanson de Joe Dassin. Joe Dassin, et le titre s'appelle « Il était une fois, nous deux ». À quel moment cette chanson, elle rentre dans ta vie? Et pourquoi?
OK. Là, on parle de la même époque que France Gall.
Donc, les avant que tu arrives à Toronto encore?
Oui, c'était avant Toronto.
Juste avant, OK.
C'est que ma famille et moi-même, on était vraiment des amoureux de Joe Dassin. On aimait tous Joe Dassin dans la famille. Et puis, au Québec, bien sûr, Joe Dassin, c'est un très grand nom de la chanson. Et en France, bien sûr. Et puis, une de mes tantes connaissait toutes les chansons de Joe Dassin. Et elle pouvait jouer sur l'orgue toutes les chansons de Joe Dassin. Et il était une fois, nous deux, je l'ai écouté d'une version interprétée par un autre chanteur. Et quand j'ai écouté celle de Joe Dassin, encore là, ça a été le coup de foudre. Et il était une fois, nous deux, quand il y a des soirées karaoké, c'est une de mes chansons dont je vais interpréter. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que la minute que j'entends les premières, disons, la première note de « Il était une fois, nous deux », ah, c'est ma toune, c'est ma chanson, c'est moi qui dois aller chanter sur le... Et c'est ma présentation de « Il était une fois, nous deux » de Joe Dassin.
Eh bien, une chanson qu'on va écouter tout de suite sur les ondes de choc.
Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois, nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour. Le grand, pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux. Il était une fois.
Un court extrait, si vous voulez écouter la chanson en entier, je vous renvoie sur YouTube, bien évidemment. Alors, du coup, t'arrives à Toronto un peu après, parce que cette chanson, quand bien même, elle était avant que t'arrives à Toronto, nous, on a déjà passé cette étape, on est déjà arrivé à Toronto. Et du coup, est-ce qu'une fois que t'arrives à Toronto, t'arrives justement à trouver professionnellement quelque chose qui te plaît? Est-ce que justement, ce voyage Toronto-Montréal, est-ce que tu l'as, t'as dû le refaire ou t'as décidé de rester et de poser tes valises officiellement dans la ville reine?
Disons que quand on prend des décisions de déménager même d'un pays à un autre ou d'une ville à une autre, c'est tout un recommencement qu'on doit faire.
À qui le dis-tu?
Et dans mon cas, c'est que ça a été pas facile parce que effectivement, comme tu le disais tantôt, dans ce temps-là, je ne parlais pas anglais.
Mm-hmm.
Donc, j'ai dû, bien sûr, aller dans une école pour apprendre et améliorer mon anglais. Ça a été la première étape. Et je me souviens, oui, effectivement, quand j'ai commencé à travailler ici à Toronto, j'ai dû faire beaucoup, soit des magasins. Et dans ce temps-là, c'est que ça se faisait pas seulement sur ordinateur d'envoyer son CV ou résumé.
C'est fallait que moi, se je rendre me suis... sur place.
Oui, c'est ça. Donc, je me suis présenté en personne et j'ai été dans des magasins, dans des restaurants, un peu partout. Et puis, mon premier emploi a été de travailler dans un magasin de disques, d'albums et de DVD.
La belle affaire pour toi, parce que du coup, t'arrivais à mêler un petit peu cette nouvelle vie anglophone avec ta passion pour la musique. Et qu'il arrive, la musique, c'est international, même si on ne parle pas une langue. On peut écouter des fois des chansons. Moi, ça m'arrive des fois d'entendre des musiques dans des langues dont je ne parle pas un mot. Mais la musicalité, le timbre de voix, la façon dont l'artiste fait rimer les mots... Je ne sais pas du tout ce qu'elle raconte, ça se trouve que c'est des textes horribles, j'en sais rien. Mais c'est vrai que la musicalité, elle me plaît. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc avec la musique, n'est pas forcément obligé de parler la même langue.
Non.
Mais il y a des émotions qui passent. Donc toi, au final, t'es arrivé avec ce job à allier un petit peu ta passion pour la musique et ce besoin aussi de payer les factures, hein, à un moment donné. Parce que si t'arrives à Toronto,
il faut se donner, il faut avoir le courage et dire, OK, il faut que je travaille pour payer ce que je dois payer, comme les factures, la maison et tout. Et quand j'ai eu l'entrevue, ça c'était avec le magasin, je vais le dire le nom. C'était Sam de Rockerman, qui malheureusement n'existe plus. Mais quand j'ai eu l'entrevue, même si je parlais pas beaucoup anglais, c'est qu'ils se sont aperçus que je connaissais beaucoup la musique et le cinéma.
Que tu étais passionné.
Et ils m'ont téléphoné immédiatement et j'ai commencé à travailler presque le lendemain.
Ah!
Oui, ça a été très rapidement quand j'ai eu mon premier emploi ici à Toronto.
Mais est-ce que du coup, est-ce que c'était ça le métier dont tu rêvais plus petit? Parce que quand tu pars de Montréal, est-ce que tu partais avec une certaine envie en te disant peut-être que je devrais faire ci, peut-être que je devrais faire ça? Ou alors tu t'es dit, allez, advienne que pourra, j'y vais, je prends mes valises, on verra ce qu'on me propose. Et de toute façon, je suis un peu ouvert à tout. Et double question, parce que tu sais très bien que j'aime bien les doubles questions. Et double question, c'était quoi ton rêve, le job de rêve que tu voulais avoir quand tu étais plus petit?
OK, ça c'est la bonne question. Ah. Effectivement, oui. OK, parce que je m'en allais justement répondre à cette question-là. OK, quand j'étais petit et que mes parents ou mes amis et ma famille me demandaient quel emploi aimerais-tu faire lorsque tu seras plus grand, et je disais toujours, je vais être un acteur de cinéma. Un acteur. Et les gens me disaient toujours, oui, mais François, c'est pas un emploi, ça. C'est
ouais,
pas un véritable emploi.
Oui, comme un à côté, un hobby, une passion, mais pas un travail, en fait.
Mais moi, je prenais ça. J'étais petit, j'étais jeune, et je prenais ça vraiment sérieusement. Je vais être un acteur. Et là, les gens disaient plus ou moins, OK. Mais pour répondre à l'autre question, c'est que quand tu... T'as pas le choix d'avoir un emploi. Donc, il faut que tu prennes les emplois qui sont offerts. Tu peux, des fois, OK, tu peux commencer à quelque chose sans oublier ton rêve de qu'est-ce que tu aimerais faire. Donc, aujourd'hui, je suis animateur de radio, je suis un choriste pour les Voix du cœur, je suis le président de mon club de Toastmasters. Puis déjà, c'est beaucoup pour moi, parce que ça me montre que j'ai des responsabilités puis qu'il faut que je me montre devant le public. Mais ça, c'est une chose. J'aime le public et ça a toujours été d'être en contact avec mon public, avec le monde, avec les gens. Et j'ai besoin d'être entouré de gens.
Alors, du coup, je te posais aussi cette question parce que le choix de ta troisième chanson, elle fait un peu écho à ton histoire. Cette envie d'être un artiste et cette envie d'être sur scène. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette troisième chanson qui est interprétée par Claude Dubois? Cette chanson, elle s'appelle « Le blues du businessman », mais je suis sûre et certaine que tu en parleras bien mieux que moi.
Oui, je pourrais même en parler plusieurs heures.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de vécu et beaucoup de reprises de ce spectacle rock.
Starmania.
Oui, Starmania. De Michel Berger et de Luc Plamondon. Et quand j'arrivais de l'école, quand j'étais les années en fin 70, et que mon frère faisait toujours jouer l'album de Starmania, je demandais toujours à mon frère, est-ce que c'est possible de faire jouer le blues du businessman qui était vraiment ma chanson? Et aussi, il ne faut pas oublier que France Gall faisait partie de la distribution de Starmania, en plus de Diane Dufresne, Nanette Workman et Daniel Balavoine, dont c'était vraiment des grands noms dans ce temps-là, puis c'était vraiment tous des chanteurs que j'aimais.
Mais je me demande aussi un peu avec le recul, maintenant que tu dis ça, est-ce que c'était pas une des premières grosses comédies musicales franco-canadiennes? Parce qu'après, nous, avec... moi, j'habitais à Paris et je suis née en France et tout. Maintenant, tout le monde le sait, à force, je mets toujours ça en avant. Mais moi, j'ai commencé à... Starmania, c'était plus vieux, donc je connaissais. Mais pour moi, la première grosse production un peu franco-québécoise, au final, c'est plus québécois que canadien au sens large, mais pour moi, c'était Notre-Dame de Paris. Parce qu'il y avait Garou, il y avait Luc Plamondon. Il me semble, oui, Luc Plamondon, il est dedans.
Disons que... Notre-Dame de Paris a été écrit et composé par Luc Plamondon et Richard Consciente.
Ouais, c'est ça. Donc, c'était... voilà. Et je pense que Starmania, il me semble... Après, peut-être que je me trompe parce que je suis beaucoup moins calée que toi, quand même. Okay. Mais je me demande si c'était pas une des premières grosses productions franco-canadiennes, justement.
OK. Pour revenir à Starmania, le disque-album a sorti en 1978. La première présentation de Starmania a été en France et ça a été en 1979.
L'année d'après, du coup. OK.
Oui, de suite après que l'album est sorti, il y a eu... Et effectivement, si je ne me trompe pas, c'est la première grande production rock composée par un Français et un Québécois, deux très grands noms de la musique, Michel Berger et Luc Plamondon. Et Notre-Dame de Paris a été à la suite, soit comme la chanson Belle,
ouais,
interprétée par Garou et puis par Daniel Lavoie, et je me souviens plus de...
Hélène Segarra.
Ah, ça, c'est la fille.
Ça, c'est la fille. Oh, j'étais trop contente de sortir son nom.
OK. Mais pour revenir pour la chanson Belle, désolé, je n'ai pas l'autre nom. On peut toujours essayer de trouver. Mais Belle a sorti en 1980.
Patrick Fiori.
Patrick Fiori, c'est
mais
ça.
Mais oui, le français.
Félicitations.
C'est ça.
Merci, Nathalie. Patrick Fiori. Donc, elle aussi, elle connaît très bien la musique. Alors, oui. Merci, Nathalie, tu m'as aidé. Alors, donc, la chanson Belle est sortie en 1999.
Oui, j'étais...
Donc,
j'étais
ça ferait comme 20 ans après de
c'est
sa
ça.
Manière.
Alors, du coup, on va revenir à cette chanson, le blues du businessman. On va la faire écouter tout de suite aux auditeurs. Je pense que ça va rappeler de grands souvenirs à plein, plein de gens.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi, es-tu heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. J'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon bien? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste.
J'ai mis un grand extrait parce que j'aime beaucoup cette chanson aussi. Je te disais que ça me donnait des frissons carrément. C'est vrai que quand on la lance, la chanson, on se rappelle pas tout de suite que ça commence comme ça. Il y a limite deux thèmes en fait dans cette chanson. Au début, il raconte un petit peu sa vie, puis en fait, il raconte que sa vie, elle est pas foufou, et puis en fait, c'est pas du tout ça. Du coup, forcément, je fais la connexion avec ton histoire à toi, ton parcours. T'arrives à Toronto, tu travailles dans cette boutique de musique, de DVD. Toi, ton rêve, ça reste d'être un artiste. Mais du coup, est-ce que quand même tu te plais dans ce job? Combien de temps tu y restes? Qu'est-ce que tu fais après? Raconte-nous un petit peu la suite de ta vie à ce moment-là.
C'est sûr que j'aurais voulu être un artiste, comme le chante si bien Claude Dubois, mais ça, mettons, on peut pas vraiment, on peut jamais arrêter de penser qu'on peut réaliser nos rêves, mais si on peut pas faire ce qu'on voulait vraiment faire, ben au moins on peut peut-être essayer de trouver quelque chose d'autre qui peut ressembler ou être très près de vers vraiment ce qu'on voulait faire, puis de toujours continuer où on est rendu dans nos chemins. Essayer d'avancer plutôt que de reculer, et c'est avoir des buts d'avancer, comme pour moi, c'est déjà beaucoup d'être animateur à la radio ou d'avoir la chance de faire partie d'une excellente comme Les Voix du cœur, un ensemble.
Oui, parce que c'est des communautés en plus qui, toi, te touchent, parce que c'est francophone. Ça fait partie de la musique. Ou à la radio, pareil, on est francophone ici et puis on te permet ta carte blanche tous les samedis. Moi, quand tu m'envoies ton émission et que je la programme, je me dis pas, bon, je vais écouter parce que ça se trouve, c'est nul. Non, je sais que ce que tu fais, c'est cool. En plus, t'as l'expérience. Ça fait plus longtemps que... Enfin, t'as plus d'expérience à Choc FM, Jean-François, que moi, hein. Au final, moi, ça fait qu'un an, bientôt, que je suis ici. Toi, ça fait déjà X et X saisons que t'enchaînes. Donc, voilà, c'est ces petits moments-là qu'on sait que t'as carte blanche. Mais du coup, voilà, c'est grâce à ces petits trucs-là que t'as gardé, en fait, cette âme de « j'ai envie de faire un métier artistique » ou en tout cas avoir un certain public, entre guillemets, quelque part.
De toujours rester avec les gens, c'est ça. D'avoir la chance, peut-être, de faire écouter aux gens la musique francophone, puisque mon émission, c'est pour les chansons francophones et aussi de parler de cinéma parce que j'aime beaucoup le cinéma, comme j'ai une très grande collection de DVD et de Blu-ray à la maison. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais j'aime aussi partager avec les autres ce que j'aime. Et si les gens ont des commentaires, alors c'est d'accepter les commentaires des autres, mais pourvu qu'ils puissent aussi connaître ce que je puisse leur donner des commentaires.
Oui, que ce soit 50-50, que toi tu... comme un échange, comme un débat en général. Enfin, je pars du principe que dans un débat, on est deux. S'il y en a un des deux qui n'écoute pas, ça devient un monologue. Dans ce cas-là, je rentre chez moi et je parle à mon mur. Comme ça, j'aurai le même recul, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est bien d'avoir justement des points de divergence sur certains trucs. Moi, il y a des films que j'adore et que mes amis détestent et vice-versa, parce que tu peux aimer des grands chefs-d'œuvre, mais il y en a qui se disent « Ah, mais c'est nul comme film ». Chacun ses goûts, comme certaines chansons. L'extrait d'après, ce sera du Charles Aznavour. Moi, on en a parlé, je suis une grande fan. Et pourtant, c'est pas du tout ma génération, pour le coup, parce que j'ai une trentaine d'années, donc Charles, c'est un peu plus vieux. Mais voilà, c'est ces voix, ces trucs qui changent un peu. Mais quelqu'un qui va me dire « Ah, ben, t'es un peu jeune pour Charles Aznavour », je vais dire « Ouais, mais pourtant, tu vois ». Et puis le débat, à ce moment-là, il va évoluer au final.
Et effectivement, donc ça se fait à deux. Donc, avoir un entretien, une conversation, ça se fait à deux ou à plusieurs. On ne peut pas juste écouter soi-même. Il faut qu'on puisse avoir la chance d'écouter les autres, ce que les autres ont à dire. C'est important parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire mon émission la première fois, ça n'a pas été comme aujourd'hui ce que je fais à la radio, parce que j'ai écouté les commentaires des autres, ce que les autres m'ont apporté à corriger ce que je dois faire, ce que je dois dire, pour faire à ce que mon émission soit plus
professionnelle, plus carrée.
Plus professionnelle, c'est ça, effectivement. Et savoir quoi dire au bon moment.
Alors, quand est-ce que tu quittes ce job de vendeur dans ce magasin de disques? Parce que c'est pas grâce à ce métier que tu as fait carrière.
Non, disons, ça a été mon premier emploi ici à Toronto. Après ça, j'ai travaillé comme au service à la clientèle. Encore là, dans un... ça s'appelait Columbia House. Le nom était Columbia House. Puis, je travaillais pour service à la clientèle. C'est que les gens demandaient soit encore là des disques vinyles ou des albums ou des DVD, des Blu-ray. Et à ce moment-là, c'était envoyé par la poste. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé. C'était mon premier emploi bilingue où j'étais francophone et anglophone. Ça a été mon premier emploi bilingue. Service à la clientèle pour Columbia House.
Et comment allait ton anglais à ce moment-là? Parce que tu partais de... on va pas dire zéro, parce que jamais personne ne parle vraiment de zéro. Il y a au moins « Hello, my name is... » Where I am, même si là je le dis avec un accent très français, mais je veux dire, on a toujours 2-3 bases d'anglais, mais pour travailler c'est autre chose, parce que un francophone, il a besoin d'un anglais bien plus, comment dire, bien plus étoffé pour pouvoir être en mesure de parler et le français et l'anglais dans son travail. Tu disais que c'était ton premier poste bilingue, donc tu avais besoin des deux langues. Comment t'étais avec ton anglais à ce moment-là? Comment est-ce que tu te sentais suffisamment en confiance, ou t'avais encore un peu des moments où c'était compliqué?
Disons, c'était le début. Et c'est sûr d'avoir eu la chance d'aller à l'école qu'on appelle ici à Toronto ESL, English Second Language, langue seconde, l'anglais. Disons que ça m'a aidé beaucoup parce que ça m'a appris plus à l'anglais. Puis on parlait seulement anglais dans la classe. Et j'ai su que d'écouter était beaucoup plus facile, de comprendre l'anglais était beaucoup plus facile que de le parler.
Mais oui. Oui, comme plein de langues, je trouve, parce que prononcer des mots, quand tu l'entends, tu dis « Oh, ben oui, ça se dit comme ça », mais toi, qu'après, avec ta langue et ton palais, et je le dis à chaque fois, quand on apprend une langue, quoi qu'il arrive, on pourra jamais lutter contre la forme de son palais. Moi, par exemple, ma langue maternelle, c'est le français. Mon palais, il est fait pour que certaines sonorités sortent. Je vais dire rouge-gorge, pas dire rouge-gorge, parce que les anglophones, eux, ils vont avoir ce côté où c'est très difficile pour eux de faire certaines sonorités. Comme quelqu'un qui est hispanique, qui va avoir ce truc,
le
R roulé, ou quelqu'un qui parle l'arabe va avoir ces sonorités de fond de gorge qui sont hyper dures à réaliser si, à la base, tu ne parles pas du tout cette langue. Mais du coup, quand bien même tu entends l'anglais tous les jours, il y a certains mots où ça va bugger parce que ta bouche, elle n'est pas prête à faire ces sons-là, en fait.
Surtout avec le H.
Ouais.
Le H est peut-être le plus difficile dans l'anglophonie, mais disons que ça a été la première fois où je me souviens, j'étais tellement nerveux quand j'ai eu mon premier appel. L'appel était anglophone. « OK, I can understand what you're saying, but can you understand what I'm saying too? » Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je dis aussi? Puis le contact, bien, c'est, j'ai toujours, pour, comme les gens disent, j'ai de la facilité pour parler avec les gens. Et les gens me comprennent très bien. Et même, je me souviens, quand je travaillais pour, je travaillais chez Virgin là, pour les cellulaires, et encore là, c'était du service à la clientèle. Et les gens me disaient, disons quand je répondais plus en français, les gens me disaient, est-ce que vous êtes animateur de radio? Parce que vous avez vraiment la voix pour être à la radio. Je disais non, mais...
C'est... À l'époque, c'était pas du tout à Choc FM, en plus.
Non, en plus, j'étais pas à Choc FM. Mais ça a toujours été en moi. Ça a toujours été dans ma personnalité. J'aime parler avec les gens. J'aime que les gens me comprennent. Donc, c'est pour moi, c'est très facile d'être en communication avec quelqu'un. Et la personne est très... se sent en confiance avec moi quand je leur parle. Donc, il fallait que je me mette vraiment dans l'ambiance qu'il fallait que je parle en anglais de la même façon que je parle en français et d'avoir le même contact avec les personnes anglophones. Et ça a pris un certain temps, oui, mais ça a été une excellente...
école.
Oui, effectivement.
Et du coup, ce job de service à la clientèle, qui au final devait pas... Enfin, ça devait te plaire, je pense, quand même, d'un côté, parce que tu avais le contact avec les gens, tu pouvais parler anglais et français, et puis tu étais toujours dans le milieu de la musique avec Columbia Records.
Non, c'est la même chose,
effectivement. Et ouais, c'est ça. Donc, il y avait toujours ce truc où tu arrivais à réunir tous les trucs que tu avais soit besoin de travailler, l'anglais, par exemple, le fait d'avoir un travail aussi, et puis surtout le fait que tu puisses parler encore de musique et de parler à des gens qui sont passionnés comme toi. Mais du coup... ce travail, il s'arrête. C'est à ce moment-là où tu travailles chez Virgin ou entre-temps, il y a d'autres choses qui se sont passées?
Suite après la fermeture de la maison Columbia, Columbia House, quand ils ont décidé de fermer, j'ai comme perdu mon emploi, c'est sûr. Et j'ai eu, presque immédiatement après, j'ai eu mon travail avec Virgin. Puis Virgin, ça a été tellement... c'est tellement drôle comment c'est arrivé. C'est comme une anecdote que je vais raconter. C'est que je m'en vais... un employeur m'a envoyé chez Virgin pour une entrevue. Et... j'ai passé une entrevue. L'entrevue devait se faire anglais et français, mais français écrit.
Okay.
Et anglais, contact, parole et avec les paroles. Une conversation en anglais. Et j'ai demandé à la dame, après l'entrevue, I see here, je vois que beaucoup, beaucoup, parce que je lisais en anglais, c'est sûr, mais j'ai dit à la dame qui m'avait donné l'entrevue, je vois que vous êtes vraiment très occupée ici et avec mon expérience, je suis très intéressée à travailler ici. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, est-ce que tu peux commencer demain? Demain matin, ici. J'étais surpris, là, je m'attendais pas tout de suite, là. Mais oui, OK, je vais venir demain. Puis j'ai commencé le lendemain.
Ouais,
j'ai commencé déjà à travailler.
Incroyable. Et ça t'a plu? Est-ce que justement, tu arrivais à retrouver autant de plaisir? Parce que là, du coup, tu parlais plus musique, tu parlais forfait téléphonique, téléphone. Soucis, parce que moi, pour appeler mon fournisseur téléphonique, des fois, c'est plus pour me plaindre que pour demander des renseignements en général, contrairement à la personne qui va t'appeler pour à recevoir un CD ou quoi. C'est plus du conseil que « Oh, mais ça marche pas, et pourquoi vous m'avez chargé ci, et pourquoi vous m'avez chargé ça ?» Du coup, je me demandais comment ça s'était passé pour toi, est-ce que t'avais apprécié? Parce que moi, j'en ai fait un petit peu du service à la clientèle, malheureusement. Faut jamais être négatif sur ces expériences, mais c'est vrai que c'est difficile. Je trouve que le service à la clientèle, faut savoir prendre sur soi, voilà. Parce que tu es obligé de faire face à des gens qui ne sont pas forcément toujours super agréables non plus, quoi.
Non, mais c'est de savoir comment écouter les gens et comment tu peux leur rendre service. Et c'est pour ça que pour moi, c'était facile d'être en contact avec
toi. Ouais, toi, tu es bienveillant comme garçon. Tu as ce truc-là, en fait. Dans ta voix, ça se sent, tu es gentil, en fait.
Oui, jamais aidé.
Ouais.
Puis c'est dans ma nature, c'est comme ça que je suis. Puis c'est toujours d'être en contact avec les gens. Déjà, de recevoir un appel et je répondais au client, c'est déjà d'être en contact avec une personne. Puis moi, j'ai toujours, c'est ce que j'aime, d'être avec le monde. Le monde est important, ils ont tous quelque chose à dire. Il y a même une chanson là-dessus. On est pour pouvoir dire ce que les gens ont besoin de dire. Moi, je suis là pour écouter, d'aider. C'est dans ma nature.
Et du coup, ce poste avec Virgin, tu l'as gardé combien de temps?
Près de 10 ans.
Ah ouais? Donc, tu t'y sentais bien?
Oui, je me sentais bien. J'aimais ce que je faisais.
Et pourquoi ça s'est fini?
Disons que je voulais passer par autre chose.
OK. T'avais envie d'un nouveau...
dans une autre étape.
Ouais, c'est ça. Il y a des moments de sa vie, même si on est bien, où on est confortable. Il y a même des gens qui, des fois, se challengent eux-mêmes. Ils sont bien, hein. Ils ont tout ce qu'il faut, le salaire, ils suivent, ils aiment ce qu'ils font, ils ont des bons collègues, ça se passe bien. Mais il y a cette envie de vouloir changer ou de se redonner un nouveau challenge aussi, parce que c'est ça le truc, c'est que toi, en partant de Montréal, de ton petit cocon, tu viens ici, tu te donnes un challenge, je vais apprendre l'anglais, je vais découvrir une nouvelle ville, faire plein de choses. Et puis, de fil en aiguille, tu fais ton petit trou de job en job. Puis après, il y a forcément le côté social. Vu que tu es quelqu'un d'hyper social, tu as dû rencontrer plein de monde aussi. Donc, tu as fait ton petit bonhomme de chemin. Et c'est ça aussi qui a motivé ton choix. Tu voulais voir autre chose, tu voulais...
Je voulais faire autre chose comme emploi. Puis maintenant, je suis comme coordinateur. Donc, coordinateur, c'est que je dois aider les agents, ceux qui répondent au téléphone. Et je dois aider. Au lieu que ce soit moi qui prends les appels, c'est moi qui aide les agents ou ceux qui répondent pour donner soit les bonnes réponses ou les aider pour que l'appel soit d'une excellente qualité. Donc, je suis maintenant, au lieu d'être celui qui répond au téléphone, je suis en arrière et c'est ce que je fais maintenant comme coordinateur.
Et ça te plaît tout autant, du coup, maintenant, parce que tu n'as plus ce contact direct avec les gens. Toi qui, justement, aimes le contact direct avec les gens, les écouter, leur parler, leur trouver des solutions à leurs problèmes XY, le fait d'être en retrait, d'être celui qui gère un peu tout ce microcosme-là, est-ce que justement ça te plaît? Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir?
Disons que oui, parce que tu restes toujours en contact avec les gens, parce qu'il faut que tu donnes des conseils aux agents, à ceux qui répondent au téléphone, pour que leurs appels soient améliorés, pour que quand ils puissent répondre au prochain appel, que l'appel soit encore meilleur que les appels précédents. Et c'est moi qui est comme le guide. Maintenant, c'est moi qui guide ceux qui répondent au téléphone.
La nouvelle génération, les petits jeunes qui sont au téléphone.
La nouvelle génération, effectivement. Moi, je suis comme la deuxième génération, comme on appelle.
Alors, du coup, tu me lances une perche parfaite pour que je fasse le lien avec la prochaine chanson, « Hier encore », de Charles Aznavour. Pourquoi tu as choisi cet extrait particulièrement? Parce que de Charles Aznavour, il y en a plein. Celle-là, c'est pas la plus rigolote, on va pas se cacher. Elle ramène bien à tout ce qui est un peu la mélancolie, aux souvenirs, à plein de choses. Pourquoi toi, t'as choisi, Jean-François, ce titre bien particulier?
La chanson de Charles Aznavour, pour moi, c'est que hier encore, j'avais 20 ans. C'est que je me souviens quand j'avais 20 ans et ça passe tellement vite, les années. Puis il faut jamais regretter ce qu'on a fait. Il faut toujours avancer vers le futur, malgré notre âge. Il faut toujours pas avoir peur, d'avoir du courage pour avancer. Et ce qu'on a fait hier, on peut le donner aux exemples, peut-être à les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, et pour qu'ils puissent apprendre que, premièrement, ça passe très vite, et que de ne pas, quand ils ont des rêves à faire, à réaliser, de ne pas s'inquiéter, puis qu'ils puissent avoir le courage de tout simplement... Qui puisse les réaliser, effectivement.
Allez, on écoute tout de suite cette très, très belle chanson de Charles Aznavour.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures.
Alors, un bel extrait de Charles Aznavour, hier encore. Tu dirais quoi, toi, Jean-François, au Jean-François qui avait 20 ans, justement, aujourd'hui? Tu lui dirais quoi, avec le recul?
Je me souviens, un jour, j'étais assis avec un de mes amis. Il m'avait demandé, comme ça, Jean-François, aujourd'hui, tu as 30 ans. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour le futur que tu n'as pas réussi dans tes 30 premières années?
C'est super dur comme question.
Oui, effectivement. Puis, j'ai eu les yeux très grands ouverts. Je me demandais encore, je peux pas croire que j'ai 30 ans aujourd'hui, puis que ça fait déjà 30 ans que j'ai vécu. Et quand j'avais 20 ans, comme le chantait si bien Charles Aznavour, c'est que je faisais la grande fête, je pouvais me coucher tard la nuit, puis pas, OK, si je travaille, c'est bien, si je vais à l'école, c'est bien. Puis, ben, j'avais pas de but, là. Je savais, les gens me demandaient, qu'est-ce que tu veux faire? Puis, ben, j'ai un travail à temps plein. Puis, et à ce moment-là, c'est presque à ce moment-là, effectivement, que j'ai pris la décision de partir de Montréal pour Toronto et de voir qu'est-ce que Toronto pouvait m'offrir. Puis, mais 30 ans déjà passé, ça, l'école, l'élémentaire, le secondaire, le cégep, donc ça m'a donné beaucoup. Puis, mais encore là, je ne savais vraiment pas qu'est-ce qui arriverait dans le futur.
Ah ben non, et Dieu merci, on ne le sait pas, parce que ça enlèverait la magie de l'instant si on savait à quoi se préparer l'instant d'après. Donc, ouais, non, je pense que c'est bien d'avoir des plans pour l'avenir, savoir un peu le chemin qu'on a envie d'avoir, de se dire, OK, j'ai envie d'aller à tel endroit, donc il faut que je fasse ci et ça. Admettons, par exemple, si tu avais envie d'être artiste, tu vas dire, OK, bah, j'ai envie de faire du cinéma, bah, je vais prendre des cours de théâtre. Où je vais répondre à un casting, parce que on a beau être le meilleur du monde, si on montre pas qu'on est là, personne va venir vous chercher par la main en disant « Ah, mais tu es génial, c'est toi que j'attendais, personne ». Donc voilà, moi je pense que c'est bien de se prendre en main, mais c'est pas, je suis pas très fan de tout ce qui est lire dans les lignes de la main ou les cartes ou quoi, parce que je trouve que ça enlève de la magie de l'instant un petit peu si on sait à quoi s'attendre par la suite. T'en penses quoi, toi?
Non, je fais pas beaucoup d'astrologie non plus.
Ouais.
Donc, je suis mon chemin et je vois qu'est-ce qui peut arriver demain. Mais j'oublie jamais ce qui m'est arrivé dans le passé, par contre.
Bah, c'est ça qui te permet aussi d'être fort et d'être la personne que tu es aujourd'hui aussi. C'est les erreurs, les bâtons dans les roues qu'on a sur nos parcours.
Oui, effectivement. Puis, si on tombe, c'est d'avoir le courage de se relever.
Et la force.
Et la force. Et si ça n'a pas fonctionné, ben, à ce moment-là, on peut essayer de faire autre chose. Mais il ne faut jamais s'arrêter, surtout de faire ce qu'on aime. C'est très important de... Si tu aimes de faire quelque chose dans la vie, fais-le. Parce que c'est ce que tu fais, tu aimes, tu vas être heureux. Si tu fais quelque chose que tu n'es pas heureux, of course, bien sûr, tu ne seras pas heureux. Donc, il faut vraiment faire quelque chose qui nous plaît pour qu'on soit heureux.
Alors, la chanson suivante que tu as choisie, alors, je suis très contente parce que, pour moi, c'est un monument de la musique. J'adore. Pareil, c'est pas forcément de ma génération, quoique elle est intemporelle, celle-là. C'est Céline Dion. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de manière générale pourquoi t'aimes Céline Dion? Et puis aussi, après, on va parler un peu plus du titre « Pour que tu m'aimes encore », celle que tu as choisie. Mais comment elle est rentrée dans ta vie, Céline? Il me semble que ça fait longtemps que tu l'écoutes.
Céline Dion, oui, parce que quand elle a chanté sa première chanson, ce n'était qu'un rêve écrit par sa mère et son frère, c'est que cette chanson-là était très populaire au Québec. Et quand je l'écoutais, je sais pas, j'ai toujours aimé Céline Dion dès la première minute que j'ai écouté sa chanson. Et si on parle justement de ce que Céline Dion a vécu, ce n'était qu'un rêve avec l'aide de son conjoint, malheureusement décédé, René Angélil, qui a été son impresario, malgré la différence d'âge entre les deux. Ils ont vraiment vécu une histoire d'amour vraiment véritable. Puis c'est grâce à son génie, parce que vraiment René Angélil savait où aller et savait ce qu'il voulait. Et la voix de Céline Dion, c'est presque, on va dire, un duo là, explosif. Et Céline Dion a toujours chanté avec beaucoup d'amour. Puis, si on écoute Céline Dion, c'est qu'avec ce qu'elle a traversé, avec la chanson « Ce n'était qu'un rêve », aujourd'hui, elle a eu la chance, avec René, de réaliser son rêve. Elle est l'une des chanteuses qui a vendu le plus d'albums à travers le monde. C'est rare que quelqu'un ne connaît pas Céline Dion,
c'est
le nom. Elle a aussi son étoile à Hollywood. Elle a été dans les différents, comme les Juno, les Grammys, les Academy Awards. Si elle chante en français et en anglais aussi bien, les deux langues. Puis c'est son parcours, c'est le parcours de Céline Dion du début jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, on connaît un peu malheureusement son état de santé. Mais on espère tous, bien sûr, qu'elle va pouvoir continuer ce qu'elle a déjà commencé en 1981. Avec son conjoint René Angélil.
Et puis aussi, ce truc, moi, que je trouve incroyable avec Céline Dion, c'est cette énergie qu'elle a. Quand on regarde, moi, ma mère adore Céline Dion, donc j'ai regardé millions de documentaires sur elle et tout. Elle a cette joie de vivre, cet attrait, elle t'embarque, elle est très drôle, même en interview, elle n'a pas ce côté très guindé, superstar, très hautaine. Elle est là, elle est marrante, elle t'emmène chez elle, elle ouvre son placard à chaussures, elle te montre qu'elle a 14 000 paires de chaussures. Enfin, je la trouve très...
C'est parce que Céline est une... est vrai.
Voilà, elle c'est quelqu'un qui elle est proche des gens parce que ça se voit que, comme toi, par exemple, elle aime les gens. Elle ne fait pas ça pour la gloire. Elle est connue parce qu'elle a un talent inconsidéré, mais c'est juste qu'elle elle serait la même personne si elle n'était pas une star, je pense. Le fait d'être devenue la star qu'elle est, ça n'a pas dû changer beaucoup sa personne. Et je pense que les gens qui la connaissent depuis toujours, bah, ils ne doivent pas se dire ah, « la célébrité, ça l'a perdue ». Je pense pas. Elle a ce côté très frais, je trouve.
Elle reste elle-même.
Ouais. Et du coup, pourquoi alors cette chanson spécifiquement « Pour que tu m'aimes encore » Elle sonne comment pour toi?
« Pour que tu m'aimes encore », c'est que c'est comme un des classiques de Céline Dion en plus, écrite par Jean-Jacques Goldman, que j'aimerais bien le mentionner, parce que Jean-Jacques Goldman a beaucoup aidé aussi dans la carrière de Céline Dion. Alors, donc, pour que tu m'aimes encore a été la chanson qui m'a comme motivé à déménager de Montréal à Toronto. Parce que l'album est sorti en 1995 et ça a été l'année de mon départ de Montréal pour Toronto.
Allez, on écoute tout de suite cette belle chanson qui va te rappeler plein de souvenirs alors.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appellasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents. D'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore.
Que tu m'aimes encore, Céline Dion, magnifique chanson, vraiment magnifique. Et du coup, ça, c'est une chanson du coup qui a peut-être même accompagné ton voyage, du coup, parce que si tu disais qu'elle est sortie l'année de ta venue à Toronto, que ça a motivé un petit peu aussi ton envie de t'établir ici, peut-être que tu l'as même écoutée en faisant le trajet, non?
Oui, disons que j'ai l'écouté effectivement quand je suis parti en voiture. Je l'écoutais sur le chemin. Et qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que 2 ans plus tard, et je commençais vraiment à bien m'installer à Toronto là, après 2 ans, en 1997, c'est que Céline Dion a sorti « My Heart Will Go On »,
qui a été vraiment... Le film du Titanic.
Du film Titanic, qui a été vraiment tellement un grand succès pour Céline. Puis c'était une chanson anglophone. Et puis, pour ça que Céline Dion, oui, effectivement, elle a, disons, beaucoup... en moi, parce que son trajet, et puis c'est sûr qu'elle a un plus grand trajet que moi, mais c'est Céline, c'est vraiment celle qui m'a dit « OK, je reste à Toronto. » Elle sort Titanic, « My heart will go on », ça m'aide, « OK, je suis motivé, je reste à Toronto. »
Oui, ouais, parce qu'au final, ça faisait écho un peu avec tout ce que toi, tu vivais au final. C'est un peu ça aussi.
Oui, c'est vraiment... c'est comme... Céline, ça a été... je ne le cacherai pas que c'est une de mes... Sinon, ma chanteuse préférée. Mais oui, effectivement, j'adore le trajet de Céline Dion.
Alors, on va parler déjà, parce qu'au final, cette heure, elle arrive déjà à sa fin. Moi, j'adore quand je parle avec toi, parce que le temps file à une vitesse incroyable. On arrive déjà à la fin de cette interview. Mais du coup, on a une petite chanson bonus. C'est ce que je disais d'habitude en général, dans Plus proche de vous, on demande aux invités de faire une sélection de 4 ou 5 morceaux. Toi, t'aimes tellement la musique, t'es tellement passionné que tu m'as dit « Oh, est-ce que je peux en ajouter une ?» parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, un artiste que j'ai vu sur scène. On parle de Stromae, un artiste belge qu'on adore, qui est venu à Toronto il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai eu la chance de le voir ici à Toronto au mois de novembre. Est-ce que justement, tu peux nous parler un petit peu de pourquoi t'aimes Stromae avant qu'on finisse cette interview?
OK. Stromae, c'est un artiste qui est auteur, compositeur, puis écrit tellement de très belles chansons. J'ai eu de la chance de voir Stromae à 2 reprises ici à Toronto. La première fois, c'était dans une petite salle. Il n'y avait pas beaucoup de gens pour écouter et regarder son spectacle.
C'était plus cool alors, parce que c'est limite intimiste, du coup.
Comme... C'était vraiment comme... comment tu dis?
Intimiste, un petit concert où il y a moins de gens, pas une grosse scène. Parce que moi, je l'ai vu sur une grosse scène.
familier, c'était plus entre lui et son public, en disant que son premier public, c'est à Toronto. Après, il est revenu, puis il a chanté dehors. Et puis, il y avait beaucoup plus de gens. Mais Stromae, c'est que c'est son génie que j'aime. J'aime sa présence sur la scène. J'aime, il est vraiment près de son public aussi. Il regarde, il écoute son public. Puis quand il a chanté Carmen, il y avait vraiment des effets visuels incroyables qui accompagnaient ses chansons. Et l'orchestre, ceux, les musiciens avec qui il chante, sont vraiment magnifiques. Puis Stromae, c'est... malheureusement, dans l'époque où il a arrêté de chanter, pour des raisons, lui aussi, pour des raisons de santé, c'est qu'il est revenu avec l'une de ses premières chansons, effectivement, dont le titre est « Santé ».
Exactement, parce qu'il a souffert de pas mal de... Parce que la célébrité, c'est cool, hein, c'est super, on est content, on est reconnu, on est invité partout. Mais c'est très dur, psychologiquement aussi, à vivre. Et lui, il l'a pas caché, il a fait une lourde dépression, sa santé mentale, elle était clairement en péril.
Il l'a pas très bien.
Il l'a pas caché, et je trouve que c'est sa force aussi, c'est de montrer que il a beau être l'artiste qu'il est, lui aussi il a des failles.
Puis je me souviens, il avait fait une anecdote sur Romain quand il parlait avec son public, le premier spectacle que j'ai vu, il a dit: j'ai mangé des French fries. Mais je veux vous dire public que les frites c'est belge et non pas français de France.
C'est vrai.
Puis il avait vraiment fait le contact et les gens riaient avec lui. Donc c'était vraiment... il était drôle en plus.
Et donc là, tu as décidé qu'on écoute la chanson « Alors on danse ». Pourquoi ce titre?
Je voulais juste mentionner que ça a été le premier spectacle que j'ai regardé et vu ici à Toronto, le spectacle de son
Et pourquoi la chanson « Alors on danse » parce qu'il en a plein dans sa discographie.
« Alors on danse », c'est la chanson qui l'a propulsée.
C'est celle qui t'a donné envie d'aimer Stromae aussi?
Et qui m'a donné, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un de mes chanteurs préférés, si on parle d'aujourd'hui.
Allez, on écoute Stromae tout de suite.
Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit études, dit travail, qui dit... taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.
Alors on danse sur les ondes de Choc FM 105.1 en compagnie de Jean-François Gosselin. Il est déjà l'heure de terminer cette interview. Jean-François, est-ce que tu aurais quelques mots pour clôturer cette belle interview pour les auditeurs de Choc FM 105.1?
Bien, j'aimerais juste mentionner peut-être, avec toutes les chansons que j'ai aimées, de Charles Aznavour, Dalida, Joe Dassin, jusqu'à Céline Dion, les Cowboys fringants, les Arles Blancs et Stromae. Ça fait un très grand voyage de chansons, mais c'est des chansons que j'ai toujours aimées et j'ai essayé de les faire aimer par le public qui peuvent écouter mon émission à tous les samedis soirs, Musique au pop, de 18h à 20h, ici même sur Choc FM 105.1.
Eh bien, merci beaucoup. L'invitation est lancée pour ceux qui n'écoutent pas déjà ton émission. Super émission, Musique au pop, tous les samedis. Encore un grand merci, Jean-François, d'être venu, de t'être prêté au jeu pour ce bel entretien. C'était vraiment un plaisir d'avoir pu retracer un petit peu ta vie, ton parcours, et puis surtout mettre en valeur ces belles chansons. Donc, un grand merci à toi. C'était Nathalie Salmeron dans Plus proche de vous. Un projet, je vous rappelle, qui est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Encore un grand merci, Jean-François.
C'est moi qui te remercie, Nathalie.
À bientôt.